Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous écoutez Au fil des pages sur Radio Libertaire. On commence avec une petite musique rapide, vas-y Fred. Au fil des pages, une émission proposée par des passionnés du livre et de la lecture. Ce soir, Frédéric, Agnès, Dominique par téléphone, Francis et notre invité Mathieu Lebal. De 17h à 18h30, les 2e et 4e mercredis de chaque mois sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste, et puis aussi sur le net, connectez-vous sur le site de Radio Libertaire en direct ou en podcast. Alors nous démarrons l'année avec de belles et passionnantes lectures. N'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse postale, je la répète régulièrement, Librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Pour commencer et nous détendre, un peu de musique classique, assez court, un extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Frédéric. Sinon on embraye, hein, Frédéric. Hein, on va embrayer. Alors, ce soir, nous avons tout d'abord deux livres pour alimenter le débat. Un livre sur l'anarchisme chrétien, un commentaire politique de l'Évangile. Ensuite, un livre de Le Procès Bousquet, avec une préface de Robert Badinter, qui est sorti chez Fayard en fin d'année. Une rencontre avec Mathieu Lebal, donc pour son livre Montparnasse, quand Paris éclairait le monde. C'est sorti chez Albin Michel en 2022. C'est une promenade autour du carrefour Vavin, avec une myriade d'artistes. Ensuite, une exposition à un catalogue, Frida Kahlo, Au-delà des apparences, exposition qui est au musée Galliera, et c'est Agnès qui va nous la présenter. Dominique, par téléphone, nous présentera La rue du chat qui pêche. C'est un roman qui fait partie de notre série Les romans de la vie. Si nous avons un moment, je présenterai un point d'histoire, l'histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire ce livre, je vous invite d'abord à aller regarder la critique que j'ai faite sur le site internet du Monde Libertaire, dans la rubrique des idées et des luttes. Et puis, nous dirons deux mots sur deux revues, la revue chronique Noir et Rouge, et puis le Monde Libertaire de janvier, qui est évidemment, comme d'habitude, assez intéressant. Alors, on embraye Frédéric. Alors, d'abord, le livre sur l'anarchisme chrétien. Alors, j'aime bien, lors de notre émission, présenter des livres qui dénotent par leur titre, leur contenu, voire leur auteur. Et lorsque j'en ai parlé à Frédéric, il a eu une poussée d'urticaire, telle que nous étions à deux doigts de le conduire aux urgences. Il faut vous le dire, Frédéric est un athée convaincu, un anticlérical acharné, et quand je lui ai mentionné le titre, ça lui a fait quelque chose. Mais je lui ai rappelé que les éditions, Atelier de création libertaire, qui publient ce livre, ont publié l'année dernière un livre de Jean-Manuel Trémont, Comment fabriquer une religion, qui démonte le processus de la religion. Et je rappelle que c'était Frédéric qui l'avait présenté lors de notre émission du 10 août 2022. Je vous invite à cette occasion à la réécouter. Alors, apparemment, c'est étonnant. L'anarchisme chrétien, c'est étonnant, deux termes qui paraissent en opposition avec en sous-titre un commentaire politique de l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas pour nous d'être d'accord ou pas, mais de prendre en compte des nuances, des sensibilités qui s'expriment dans la mouvance anarchiste. Et même si elle diffère de nous, elle nous donne à réfléchir, quitte à renforcer nos convictions initiales. Alors, qui représente ce courant bien spécifique? Eh bien, par exemple, Tolstoï, un écrivain célébrissime, un sévère dénonciateur de l'État, c'est peu connu, et des compromissions de l'Église orthodoxe, puisqu'il était russe, en tant qu'institution. Ah, voilà qui devient intéressant. En France, un philosophe moins connu aujourd'hui, Jacques Ellul, qui s'affichait chrétien et anarchiste. Il en est d'autres présentés dans ce copieux ouvrage, issu d'une thèse. En effet, écoutons l'auteur. La thèse avait pour objet de produire une synthèse claire et accessible de toutes les publications anarchistes chrétiennes dont j'ai pu avoir connaissance. Alors, il s'agit d'explorer en détail les critiques émises sur l'idée chrétienne de l'État. Il y a plusieurs axes, vous verrez. Exposer la vision anarchiste chrétienne des implications politiques de l'enseignement et du comportement de Jésus. Analyser leur critique de la collusion de l'Église et de l'État depuis l'empereur Constantin. Apprécier l'interprétation anarchiste chrétienne du passage du « Rendez à César », vous connaissez, et du « Romain XIII », une épître de Paul aux Romains. Et enfin, présenter la mobilisation que les anarchistes chrétiens attendent des chrétiens. Donc là, c'est vraiment les grandes étapes du livre. Disons-le d'entrée de jeu, cet ouvrage fait appel à une culture chrétienne certaine, sans être forcément soutenue, mais il se lit d'autant plus aisément que certaines références font écho à ceux qui se sont intéressés ou qui s'intéressent encore au texte d'origine. Alors, Tolstoï s'appuie sur le célèbre Sermon sur la montagne de l'Évangile de Matthieu, qui contient, selon lui, les principes moraux du christianisme. Je cite « Nulle part, Jésus ne parle avec autant de solennité, nulle part, il ne donne des règles morales plus claires, plus accessibles, qui trouvent plus d'écho dans le cœur de chacun. Nulle part, il ne s'adresse à une foule plus grande de gens du peuple. » Tout est fondé sur l'amour et le pardon. Plus de loi du talion, nous sommes dans le Nouveau Testament, il faut sortir de la violence et un certain nombre de pacifistes s'inspirent de ce texte. Il est beaucoup plus prudent, Tolstoï, à l'égard des miracles au nom de son positivisme rationaliste. Et Jacques Ellul estime qu'il faut sortir du cercle vicieux de la violence. La violence est toujours un élément très sensible pour les anarchistes chrétiens. De même, il s'oppose à l'État. Celui-ci est fondé sur la violence légitime, donc l'État n'est pas chrétien. Tolstoï invite à ne pas utiliser les procédures pénales, à s'opposer aux guerres et au patriotisme, à être en quelque sorte hors du droit. Et avec cette règle d'or, je cite toujours, « Faites à autrui tout ce que vous désirez que les autres vous fassent. » Alors, dans ces conditions, puisqu'il y a en plus une alliance entre l'État et l'Église particulièrement orthodoxe, eh bien, faut-il mener une révolution? Eh bien, pas pour les anarchistes chrétiens, pas dans la violence en tout cas. Souvent, les révolutions provoquent des bains de sang. Ah, c'est pas faux. Et c'est par le dédain à l'égard des institutions, par l'exemplarité, par une forme de contre-culture, que les changements se produiront. L'auteur cherche des exemples dans l'histoire. Il relève, par exemple, les communautés des églises primitives, certaines sectes du Moyen-Âge, voire la première version des franciscains, avant que l'Église ne remette son ordre dans la première version donc des franciscains. Nous pourrions peut-être demander à ces chrétiens comment faire naître le royaume de Dieu. Eh bien, pour l'auteur, Alexandre Christoyanopoulos, en somme, tant par leur enseignement que par leur exemple, les anarchistes chrétiens s'efforcent d'agir en prophète, mettant l'humanité en garde contre ses péchés, l'invitant à suivre Dieu et lui rappelant le potentiel révolutionnaire de l'amour, du pardon, du sacrifice, c'est-à-dire en l'appelant à suivre Jésus jusqu'à la croix. Ah, c'est intéressant. C'est un livre passionnant que vous trouverez évidemment chez Publico, que vous trouverez aussi à La Procure, l'une des grandes librairies religieuses de Paris, mais que vous pouvez aussi, évidemment, commander. Alors, je rappelle le titre, « L'anarchisme chrétien, un commentaire politique de l'Évangile » d'Alexandre Christoyanopoulos, publié aux éditions Atelier de création libertaire en 2022. Un livre tout à fait intéressant. Frédéric, est-ce qu'on peut passer un petit bout du carnaval ? Le carnaval ne répond plus. Non ? Voilà le carnaval des animaux. Alors, introduction, c'est l'ouverture. Alors, dans la rubrique, la rubrique histoire, un nom sinistre, René Bousquet. Oui, un nom sinistre pour qui connaît son rôle dans la rafle du Veldiv et la déportation de milliers de Juifs pendant l'occupation. Je vous renvoie au livre de Maurice Rachfus, réédité aux éditions du Détour, dont nous avons parlé lors de notre émission du 14 septembre 2022, et à celui de Laurent Joly, publié chez Grasset, qui s'intitule tout simplement « La rafle du Veldiv ». J'ai fait une chronique des idées et des luttes le 10 juillet 2022 sur le site du Monde Libertaire, et nous en avons parlé aussi dans l'émission au fil des pages, du 13 juillet 2022. Alors, René Bousquet, c'est l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, d'avril 42 à décembre 43. C'est un proche de Laval. Il est envoyé par la Gestapo en Allemagne avec sa famille en juin 44. Qu'avait-il à cacher ? Pourquoi était-il si précieux ? En mai 1945, au lieu de s'enfuir en Amérique latine comme nombre de ses complices, ou de se mettre aux ordres des Américains comme cela lui fut proposé, il préfère rentrer en France, sûr de s'en sortir. Ainsi qu'il le dit à ses proches, « Cela se passera bien ». Et en effet, Jugé par la Haute Cour de justice les 21, 22, 23 juin 1949, il n'est guère inquiété. Incroyable. Les éditions Fayard publient, avec une préface assez dense de Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux avocat, le compte-rendu intégral des débats. C'est un monument et un document historique primordial et révélateur. Cette haute cour est composée de résistants. Certains ont été arrêtés, d'autres déportés, avec comme président Louis Noguer. Et on assiste à un acte d'accusation, un réquisitoire des plus complaisants à l'égard de Bousquet. Robert Badinter, dans sa préface, s'étonne de cette attitude. Ben oui, la libération est déjà loin, la guerre froide sévit. Les responsables politiques de cette haute cour auraient-ils la tête ailleurs ? On pourrait y noter la présence de Jean Baillet, un député radical socialiste. Vous connaissez sans doute son fils, qui a une carrière sous la Cinquième, et surtout patron de la Dépêche du Midi, qui saura accueillir Bousquet et louer ses exploits comme préfet d'avant-guerre. La décision est surprenante, car les crimes de Bousquet sont opportunément oubliés, sauf un démantèlement de réseau dans le sud de la France. Mais au regard des services que cet individu aurait rendus à des résistants, des gens de gauche, des syndicalistes, des juifs qui viennent témoigner au procès, il est blanchi. Oh, que s'est-il passé ? Bon, selon Robert Badinter, il avait certainement des informations compromettantes en sa possession. Et au cœur de l'occupation, certains collaborateurs ne se faisaient sans doute guère d'illusions sur l'issue des combats et rendaient les services qu'ils surmonnayaient dans leur procès. Il aurait pu être tué à cette époque, il n'en est rien. Oui, il avait des appuis. En effet, la société française, comme le souligne Robert Badinter, connaissait, je cite, « une sorte d'amnistie sociétale faite de silence et d'omission qui permettait aux uns de dérober leur passé et aux autres de feindre de l'ignorer. Tout en zone gris. » Une nouvelle génération d'historiens, dans la lignée du film « Le chagrin et la pitié », engage une autre réflexion. Mais il faut dire que c'est Darquel de Pellepoix qui le dénoncera en 1978, Bousquet. C'est Serge Klarsfeld qui relance la procédure grâce à la découverte de télégrammes secrets et d'un procès-verbal qui démontre le rôle de Bousquet dans l'épouvantable rafle. Ce procès-verbal et ces documents, on les retrouve aussi d'ailleurs cités dans le livre de Laurent Joly. Un second procès se profile et il faudra bien parler. Mais il n'en sera rien car Bousquet sera tué devant son domicile en juin 1993. Les mots nous manquent, mais les questions fourmillent. Comment cette justice a-t-elle pu faire de ce coupable un innocent ? Pourquoi le ministère public a-t-il prononcé davantage une plaidoirie en faveur de Bousquet qu'un réquisitoire ? Robert Badinter, par une préface éclairante, introduit le compte-rendu synthétique de ce procès qui blanchit un collaborateur et lui décerne un brevet de résistance. Il faut lire les échanges entre l'accusé et les juges. On est entre soi, on se comprend. Ah oui, au fait, une anecdote. Le dossier administratif de cette affaire a disparu à la chancellerie, un hasard sans doute. Le procès Bousquet, publié aux éditions Fayard en 2022. Alors, avant d'introduire le livre, le très beau livre sur Montparnasse, Frédéric, est-ce que nous pouvons passer une des reines de Montparnasse au Bal Nègre ? Rue Blomet. On y va ?
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander aux marins qui voyagent s'ils peuvent vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la Parisienne, qu'importe qu'elle vienne du Nord ou bien du Midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris, Paris, Paris.
Madame, c'est votre robe si jolie.
Paris, Paris, Paris.
C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, Paris. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire, c'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. C'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France. Tout cela, oui, c'est Paris.
Alors, Mathieu Lebal, bonjour.
Bonjour, Francis.
Vous êtes galliériste à Montparnasse, 5 rue Stanislas, et j'invite les auditrices et les auditeurs à vous rendre visite. En effet, quand on rentre dans votre galerie, on ressent immédiatement la passion de la peinture. Vous allez me dire, c'est un peu évident. Et puis, on est dans un quartier passionnant que vous faites revivre au fil des pages de votre ouvrage « Montparnasse, quand Paris éclairait le monde », paru chez Albin Michel en 2022. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à publier cet ouvrage Montparnasse, des souvenirs d'enfance, c'est le Breton qui vient passer des vacances à Paris, donc comment ça s'est passé?
Il y a un peu de ça, je suis originaire de Quimper dans le Finistère, donc Montparnasse, ça fait partie de l'histoire de la Bretagne. Depuis, voilà, on a une histoire avec la Bretagne depuis les années 1850, avec tous ces exils de centaines de milliers de Bretons qui sont venus coloniser Paris et Montparnasse, pour chercher du travail. Donc le lien avec la Bretagne, il est très personnel. C'est sûr que c'était une logique pour moi, Montparnasse, d'ouvrir une galerie à Montparnasse. J'ai cherché d'abord dans Paris un lieu, et puis j'avais trouvé à Montmartre dans un premier temps, mais la logique voulait que ce soit à Montparnasse et que le destin me conduise rue Stanislas, et c'est ainsi que ça s'est fait. Et la naissance de ce livre est née petit à petit sur deux choses. Le premier, c'est le constat, en arrivant à Montparnasse, d'une amnésie générale par rapport à l'histoire du quartier, des gens qui vivaient dans ce quartier et qui avaient un peu oublié quel était ce quartier il y a une centaine d'années avant. Et donc j'avais un peu le sentiment que tout l'écho des voix de ces génies et ces grands talents était en train de s'enterrer petit à petit dans un oubli profond. Et ensuite, après l'amnésie, ça serait l'injustice. C'est-à-dire, ce livre est né d'un autre constat, c'est-à-dire qu'on parlait régulièrement de certains artistes du Montparnasse, que j'appelle les grandes stars, c'est-à-dire 4-5 noms les plus connus. Mais on oubliait les centaines, les milliers d'autres noms venus des quatre coins du monde et des quatre régions de France et voilà, qui constituent ce qu'on appellera un peu plus tard l'école de Paris. Mais voilà, je suis parti de ce constat d'une amnésie et puis d'une injustice, c'est-à-dire on a gardé d'une histoire extraordinaire, on a gardé qu'une liste de noms très courte. Donc voilà, c'est le point de départ.
Ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes installé à deux pas du quartier du carrefour Vavin, et en fait, on a l'impression que ce carrefour Vavin, c'est le centre du monde culturel pendant des années.
Ça l'a été. C'est vraiment la mémoire d'un moment où il y a eu un alignement de planètes. Ouais. Tous les feux ont été au vert pour que Montparnasse devienne ce petit épicentre de quelques rues et boulevards où le monde entier va converger, et surtout les plus grands génies de l'histoire de la peinture moderne. Mm-hmm. Donc je compare souvent le sujet de Montparnasse au Quattrocento de Florence ou à la Grèce d'Athènes, c'est-à-dire un bouillonnement unique à un moment donné dans l'histoire. Voilà, où l'esprit va s'arrêter dans un lieu, dans quelques rues, le monde va changer, le regard va changer grâce à eux.
Alors, c'est un très bel ouvrage sur le fond et sur la forme. Bon, alors, on redécouvre de très nombreux artistes. Moi, je veux dire, j'en ai découvert énormément. C'est l'histoire d'un quartier. Vous faites tout l'historique du quartier. Et sur la forme, c'est une magnifique iconographie avec des tableaux pleines pages. C'est votre choix? C'est un travail mené avec l'éditeur? Comment ça s'est passé pour présenter un si bel ouvrage sur le plan de l'iconographie?
Sur l'iconographie, j'avais en tête personnellement le musée idéal de Montparnasse. Vu que le musée du Montparnasse a fermé en 2013 sous décision de la ville de Paris.
Il était à quel endroit?
Il était avenue du Maine, dans l'impasse où était l'atelier, la cantine de Marie Vassiliev.
Ah oui.
Le problème de Montparnasse, c'est qu'on est orphelin d'un musée du Montparnasse aujourd'hui. Hein. Concernant les images, j'avais en tête ce musée idéal du Montparnasse. Donc pas que avec les grandes stars dont j'évoquais tout à l'heure, mais avec une vision plus globale. Et donc j'ai cherché dans les archives le lien avec les familles aussi, parce que je travaille beaucoup avec les familles des artistes, les enfants, les petits-enfants, les neveux de cette époque-là. Et donc depuis des années, en fait, j'ai collecté des archives, des photographies, des documents, la mémoire orale aussi, hein, bien sûr, et puis des photographies de tableaux, des photographies d'époque, des lettres, des manuscrits, hein, toutes ces archives qui, petit à petit, ont constitué un fond et m'ont permis d'avoir un plan plus ou moins clair dans mon esprit au départ. Et voilà, c'est né ainsi. Après, avec l'éditeur, on a travaillé un an sur ce projet et on a avancé ensemble. Il m'a beaucoup aidé et on a trouvé des choses fantastiques ensemble. Mais le point de départ, c'est vrai que j'avais une idée à peu près globale du livre.
D'accord. Et alors, vous avez une très belle préface aussi de Janine Varneau qui établit le lien entre Montmartre et Montparnasse, justement. Et alors, d'abord, pourriez-vous nous rappeler qui est Janine Varneau?
Alors, Janine Varneau, elle a fêté ses 101 ans. Elle est la fille du célèbre critique d'art et journaliste André Varneau. Et André Varneau, c'était l'un des tout premiers à avoir diffusé en 1925 dans une revue qui s'appelait Comoédia, le terme « École de Paris ». Donc, qui aujourd'hui est convenu comme étant une sorte de grand mouvement où on rassemble tous ces artistes qui sont venus de l'étranger et des quatre coins de France. Mm-hmm. Et donc, son père a été une des figures à la fois de Montmartre, parce que Montmartre est un peu le précurseur de Montparnasse, mais aussi de Montparnasse, parce que tous les artistes de Montparnasse venaient chez lui. Et donc, sa fille, Janine, a grandi, elle est née en 1921, elle a grandi dans cet univers avec ses artistes. Elle a très bien connu Fujita, elle a très bien connu Chagall, elle a très bien connu Zadkine, elle les a connus. Et j'avais besoin, je souhaitais pour ce livre que ce soit, voilà, je ne suis pas conservateur ni historien d'art, je ne voulais pas que ce soit une thèse, je voulais que ce soit un livre vécu. Et donc, Janine Varneau me permettait d'avoir ce rapport vécu, parce que c'est une des dernières témoins vivantes de cette époque. Et donc voilà, elle m'a témoigné de toutes ces anecdotes extraordinaires, avec Zadkine, avec Fujita, avec tous les Montparnasse. Et donc plus tard, une fois sa carrière professionnelle, elle va la faire en tant que journaliste culturelle au Figaro pendant près de 40 ans. Et donc elle va retrouver ses artistes après la guerre. Et ces artistes qui ont survécu, ils ont vieilli, ils ont pris un peu, ils ont pris de l'âge. Et donc elle va s'occuper d'eux et de les faire connaître. Elle va s'occuper de les faire connaître. Elle va écrire beaucoup de livres sur l'école de Paris, sur la ruche, sur tous ces artistes, parfois très connus et parfois méconnus. Et donc voilà, Janine, c'est un peu la mémoire de Montmartre et de Montparnasse. Et on a la chance qu'elle soit là. Et elle a une jeunesse et une vivacité. Incroyable d'esprit, quoi. C'est un vrai bonheur. Et elle m'a fait une préface magnifique de plusieurs pages où elle retrace cette aventure vécue de Montparnasse.
Oui, elle raconte bien. Elle était presque sous la table de salle à manger pour les écouter, quoi. C'est assez passionnant. Et je dois dire que son père, qui était journaliste, les éditions L'Échappée va ressortir dans une collection qui s'appelle Paris perdu, va ressortir un livre de Varnaud sur un quartier un peu perdu de Montparnasse. On aura l'occasion d'en reparler quand le livre va sortir au mois d'avril. Alors, d'où vient le nom Montparnasse?
Alors Montparnasse, le nom, je suis remonté au XVIIe siècle. On n'était pas à Paris là, on était vraiment.
C'est la campagne.
On était en périphérie totalement, ouais. Quoi. On est dans un monde complètement rural. Et il y avait cette éminence là, cette amas de terre. On le voit sur les cartes du milieu du XVIIe siècle. On le voit très clairement. Et on a cette éminence au milieu des champs, de la campagne. Alors, il y a eu aussi la période de la Fronde. Donc, voilà, au début, ça a été peut-être baptisé le mont de la Fronde. Et on voit tout autour, c'est les animaux, hein, c'est les vignes, c'est les champs de céréales, de blé, de luzerne, les moulins. Et donc, les étudiants de Paris, du quartier latin, juste à côté, parce qu'on n'est pas à Paris encore, vont prendre l'habitude, après leur cours, de venir réciter des vers de poésie sur ce monticule et autour de ce monticule. Et dans la coutume, je ne sais pas, j'imagine que pour recevoir l'inspiration divine, ces étudiants devaient, avant la récitation de leur poème, invoquer le dieu Apollon et son cortège de 9 muses, et trônant sur ce mont Parnasse, peut-être par un parallèle astucieux et humoristique, ils l'ont baptisé le mont Parnasse, en référence à la montagne d'Apollon dans la cité de Delphes en Grèce. Et voilà, et Montparnasse, Parnassos en grec, ça veut dire la demeure, la maison. Et donc c'est la maison qui va abriter les poètes.
Alors tout est rasé aujourd'hui, parce que je vois pas trop le Montparnasse. Je crois qu'il y avait aussi le lien avec une extraction de carrière.
C'est ça, et c'était des gravats, un monticule qui a été artificiel, qui a été aplani sous Louis XIV pour construire les deux boulevards qu'on appellera les boulevards du Midi, que sont Raspail et Montparnasse, et dans lesquels toutes les rues vont se déverser au XVIIIe et au XIXe siècle.
Alors, pourquoi les artistes s'y installent alors que d'autres quartiers, vous avez parlé de Montmartre tout à l'heure, c'était un des hauts lieux, Montmartre. Pourquoi est-ce qu'ils s'installent à Montparnasse, là? Il y a une dynamique qui se crée à partir de qui?
Ça se fait progressivement et ça se fait en parallèle à Montmartre. Montparnasse est déjà très actif au XIXe siècle, hein. C'est déjà bouillonnant d'activité. On a tous les artistes académiques qui sont rue Notre-Dame-des-Champs et les premiers artistes frondeurs vont arriver comme Gauguin, Cézanne, les impressionnistes, et vont casser un peu le vieux monde, hein, casser un peu cet art hérité de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc voilà, on a des Montmartre, c'est vraiment, on est un peu sur la même caractéristique entre Montmartre et Montparnasse dans cet aspect village au XIXe siècle. Cet aspect rural entouré de vignes. Et Montparnasse va attirer progressivement parce que ça se, déjà c'est très peu cher. Le quartier, voilà, on peut s'installer et avoir un atelier improvisé dans des hangars à chevaux, dans des écuries. Donc voilà, ils vont débarquer progressivement et ça se fait simplement, massivement dans les années 20, grâce à une forme de rumeur qui va courir dans le monde entier. En fait, c'est aussi simple que ça.
Alors, vous évoquez les peintres, mais vous n'évoquez pas que les peintres, vous évoquez des écrivains, les poètes, les musiciens, les sculpteurs. Tout votre livre, d'ailleurs, comprend ces présentations, les photographes, les critiques d'art, les marchands, le milieu un peu interlope, les modèles comme Kiki de Montparnasse. Et donc ça, c'est votre travail d'archiviste quasiment de Montparnasse.
Oui, c'est un sujet qui est énorme, hein. C'est une vraie montagne, une montagne de l'esprit, c'est tous les mouvements artistiques, c'est les événements, les chocs géopolitiques, c'est tous les pays du monde, c'est les vies d'exil, voilà, c'est des destins, hein, qui sont arrivés là, et puis c'est tous les arts, c'est toutes les expressions, c'est toutes les formes d'art, c'est la danse, c'est le cinéma. Méliès était à Montparnasse, il y avait sa boutique de jouets, c'est la danse, c'est la mode, c'est Montparnasse va être le témoin, une sorte de sphinx qui va être le témoin de tous les grands chocs de l'art moderne et du début de l'art contemporain qu'on connaît aujourd'hui.
Donc l'école de Paris, c'est cet égrégore qui se crée là, cette osmose qui se crée.
L'école de Paris, c'est une sorte de grand sac fourre-tout dans lequel on met un peu tout. Il y a tous les mouvements dedans. C'est né en 1925. On dit que c'est peut-être même avant, en 1923. Par un autre critique d'art, mais ça s'est vraiment diffusé par André Varnaud, et cette école de Paris va rassembler tous les artistes qui ont cherché Paris dans ces années-là, qui venaient de Bretagne, de Corse, du Pays Basque, ou qui venaient du Mexique, du Japon, du Portugal, de Turquie, peu importe. En fait, c'est ceux qui ont succombé à la rumeur de Paris. Et ça, c'est la première école de Paris, on va dire, de 1905 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y aura une seconde école de Paris qui sera plus, bien sûr, sur les peintres de l'abstraction.
Voilà. D'accord. Et alors, vous mentionnez aussi André Salmon, qui est un romancier, critique, et qui énonce, lui, le concept d'art vivant. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est l'art vivant ?
Alors pour moi, c'était un grand poète, Salmon, un grand poète un peu méconnu aujourd'hui, malheureusement, et c'était une figure tellement importante pour les artistes comme Varnaud, parce que c'était des chroniqueurs de la vie des artistes à cette époque, et qui faisaient des comptes rendus dans les journaux de l'époque. Donc c'était super important qui est André Salmon et André Varnaud, hein, parce que voilà, ça a permis à des artistes peut-être moins connus d'être relégués sur le plan de l'information dans les expositions. Et donc il écrira un livre qui s'appellera, je crois, c'est L'art vivant, artiste d'hier et d'aujourd'hui, il me semble, c'est dans les années 20. Et je trouve cette idée, je vais pas employer le mot de concept, mais je vais dire cette idée de l'art vivant plus en phase avec ces artistes, et moins, ça les enferme moins que le concept d'école, parce que ces artistes étaient pour la plupart réfractaires à toute autorité, tout rapport officiel de l'art, et voilà, vous laissant libérer. Et là, l'école de Paris me convient pas trop personnellement, parce qu'on a, j'ai l'impression qu'on les enferme quelque part dans quelque chose qui les concernait pas vraiment, parce que l'école de Paris est née en 25, c'est déjà très tard dans Montparnasse, donc c'est un terme plutôt tardif qui va nous concerner, nous, c'est-à-dire l'histoire de l'art d'aujourd'hui, mais eux qui arrivaient en 1905, ils savaient pas ce que c'était l'école de Paris. Ce terme n'existait pas. Et je trouve que le terme d'André Varnaud, l'art vivant, dans le rapport incarné un peu de l'art, je trouve que ça leur convient mieux. Voilà, on n'est pas dans le concept, on n'est pas dans l'idée, mais on est dans l'expérimentation des grands sentiments, des grands destins de l'art. Et voilà, cet aspect vivant, charnel, me convient mieux, je trouve, que celui d'École de Paris. Mais peut-être qu'il convient, l'École de Paris, ça convient mieux aux historiens de l'art et aux conservateurs de musées, mais pour moi, moins.
Voilà. Alors, il y a un périmètre qui est mouvant sur Montparnasse. Vous évoquez par exemple des lieux un peu éloignés comme La Ruche. Rappelez-nous ce qu'était La Ruche.
Alors La Ruche, c'était sur les plaines de Vaugirard, c'était là où il y avait les anciens abattoirs. La Ruche, ça a été fondée...
C'est Danzig, je crois.
C'est ça, hein, c'est ça. C'est ça, absolument. C'est très excentré par rapport à Montparnasse, c'est un peu plus éloigné. D'ailleurs, on disait que les artistes pauvres allaient à La Ruche et les riches allaient à Montparnasse. Et La Ruche, ça a été fondée par un sculpteur académique qui s'appelait Alfred Boucher. Et qui a eu l'idée, comme ça, en récupérant des éléments des expositions universelles, de fonder un grand atelier qui accueillerait les artistes les plus désargentés venus des quatre coins du monde et principalement de l'Est, donc beaucoup d'artistes slaves de l'Empire russe, beaucoup d'artistes de tradition juive. Et donc La Ruche va accueillir à partir on va dire 1900, la plupart de tous ces artistes venus de l'étranger, et pas que, il y avait beaucoup de Français, hein. Fernand Léger était à La Ruche. Et donc, on l'appelait la Villa Médicis de la Mouise et de l'Espoir. Et ce lieu va être c'était de forme octogonale et c'était composé d'une centaine d'ateliers avec un escalier central. Et c'était des petits ateliers on appelait ça en forme de quart de brie, voilà, où on appelait ça aussi des cercueils. Et ça devait faire 7-8 mètres carrés, pas plus. Et les artistes étaient dans ces petits ateliers là à l'intérieur. Et ils vivaient dans des conditions absolument terribles, quoi. Enfin voilà, ce qu'on a appelé plus tard les années folles, en fait, ça a été une vraie misère. C'était une galère pas possible pour ces artistes. Voilà, il y avait des conditions de vie terribles. Hein, et voilà, c'est dit dans la préface de Janine Varnaud. Voilà, ils mangeaient du ragoût de chat. C'était dur. C'était une vie dure. Il faisait froid. C'est des conditions très dures. Et Chagall en parlait. Il disait à La Ruche, soit on en crevait, soit on sortait célèbre. Et donc voilà, La Ruche, ça a été un peu ce rapport excentré de Montparnasse par rapport à Vaugirard et qui va faire en sorte que les artistes du monde entier auront un pied-à-terre dès qu'ils vont arriver. Ils ne parlaient pas le français, mais ils auront cette adresse griffonnée sur un morceau de papier, La Ruche.
Voilà. Et ça existe, le bâtiment existe encore ?
Toujours, oui, bien sûr, il y a toujours des artistes à La Ruche et de bons artistes. C'est une association, je pense, qui gère ça. On peut pas y avoir accès, c'est pas entrée libre pour visiter, parce que les artistes souhaitent être tranquilles dans leur création. Donc voilà, c'est pas un lieu qui se visite touristiquement. Je pense qu'il y a des conférences qui sont organisées auprès d'historiens d'art qui permettent de le faire. Et puis il y a le petit jardin, il y avait un petit théâtre juste à côté. Donc c'est un lieu où l'âme est encore préservée de Montparnasse et un peu en périphérie. Donc c'est vraiment l'esprit de Montparnasse.
Alors, après, il y a le choc de la Première Guerre mondiale, là, ça a dû être terrible. C'est un changement qui va se produire, là, après, c'est les années 20.
Oui.
Et le jazz arrive, rue Blomet.
Aussi, ouais, ça marque, bien sûr, ça a été... Le jazz est arrivé un peu... Tout arrive un peu tout en même temps. Les artistes sont sur le front. Certains d'entre eux sont sur le front. Les étrangers, beaucoup des artistes étrangers sont à Paris. C'est la phrase de Cocteau. Hein, Paris était une ville à prendre, mais les artistes l'ont pris. Donc, les femmes ont le rôle des femmes, le statut des femmes aussi a beaucoup changé. Ça a été pris par les femmes artistes qui ont pris la ville. Mmh. Et ça a été un moment, il y a des artistes, je pense à Shana Orloff, qui disait « Mais la guerre, ça a été merveilleux. » Je suis désolé de le dire, mais ça a été merveilleux parce que j'avais des tickets de rationnement, je pouvais travailler, voilà. Ils étaient complètement, il y avait beaucoup d'artistes étaient complètement déconnectés de ce qui se passait sur le front. On a des photographies de Picasso, de Mac Jacob, d'André Salmon, qui sortent tout sourire de la rotonde après une bonne bouffe. On est en 1916, le soleil brille.
C'est Verdun.
Ouais,
et sur scène, c'est Verdun.
Ah ouais, mais le soleil brille à Montparnasse et on a eu énormément d'artistes qui sont morts, que ce soit des artistes allemands, français ou des écrivains, des peintres, qui sont morts sur le front et qui quelques années avant se réunissaient à la Closerie des Lilas et étaient face à face en toute amitié et toute fraternité. Donc l'art a été profondément marqué par l'inhumanité, mais s'en est pas peut-être rendu compte tout de suite. Mm-hmm. Et après, évidemment, c'est les années folles.
Alors, vous parlez aussi des artistes bretons. Alors, bon, un poète de Quimper, Max Jacob, bon, ça, tout le monde connaît. Un peintre, le Skouzek.
Le Skouzek.
Le Skouzek. Alors, comment peut-on le caractériser, ce peintre?
Alors, le Skouzek, en breton, ça veut dire l'homme qui a de larges épaules. Et le Skouzek, c'était, je l'appelle, le plus breton des Montparnasse. Mmh. C'était vraiment une des figures proches de Modigliani, de Ortiz de Zarate, de Fujita à Montparnasse. Et le Skouzek, il arrive après Verdun, donc il est blessé en 1917. Il arrive à Montparnasse en 1917. Et il est déjà d'un certain âge. Et le Skouzek à Montparnasse, ça va pas être le peintre des années folles et des grandes fiestas costumées de la coupole. Ça va être le peintre d'une réalité difficile, âpre. Il va peindre les prostituées, les hôpitaux, les clochards, la rue. Donc il va peindre une vérité poignante, difficile de Montparnasse. Voilà, c'est un peu, c'est pas la carte postale des années folles, le Skouzek. C'est une peinture à Montparnasse qui cherche le vrai. Et ça peut être témoigné par la brutalité du sujet. Et après, le Skouzek va partir en Afrique, il va faire 4 voyages dans les anciennes colonies françaises, en AOF. Et donc, il était envoyé comme peintre des colonies, il a reçu une bourse par la Société des artistes coloniaux, et il va devenir un dénonciateur des colonies, un peu à son insu, par sa peinture. Et il sera donc à Montparnasse un chroniqueur de la vie des boulevards, et en Afrique, il sera il a trouvé sa lumière en Afrique, en fait. Et à la fin de sa vie, il revient en Bretagne et puis il décède à Douarnenez. Et ça sera un des grands noms de la peinture bretonne.
Alors avec un certain Loutreuil.
Maurice Loutreuil.
Maurice Loutreuil, vous le présentez comme étant un artiste breton de sensibilité anarchiste. Alors c'est pourquoi?
Alors Loutreuil, il n'est pas breton, hein, il est né au Mans, mais le Skouzek et Loutreuil, je les rapproche parce que c'est la même peinture expressionniste. Ils cherchaient le vrai. Ils sont tous les deux jugés insoumis. Ils ont tous les deux à peu près le même parcours. Ils refusent les enseignements officiels. Ils sont dans la lutte. Ils sont dans ce qui est important pour eux, c'est tenir. On sent, il y a quelque chose qui est de cette nature-là. Et ils sont dans une quête. Alors, anarchiste, oui, je rajouterais peut-être anarchiste spirituel. Mmh, mmh, mmh. Ils sont dans une quête. Très poussés d'eux-mêmes, donc ils sont dans le refus de ce qui est l'ordre établi. Mais en étant dans ce refus-là, ils vont être dans leur recherche, ils vont trouver quelque chose, peut-être par la peinture, peut-être par la spiritualité. Ça va se témoigner peut-être comme ça. C'est un peu la phrase de saint Augustin. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Ouais. Donc, il refuse, mais voilà, ça bosse, ça travaille. Et ça se voit dans la peinture, c'est des ils sont dans le dur et il y a une lumière qui sort, en fait. Voilà, de la boue, de la matière, il sort un jardin merveilleux. Mm-hmm. Et Loutreuil meurt très, très tôt, et donc c'est des destins similaires avec le Skouzek.
Et alors, est-ce qu'il y a un lien avec Pont-Aven?
Il y a un lien avec Pont-Aven parce que Gauguin était un des premiers Montparnasse. Mm-hmm. Il a eu trois ateliers à Montparnasse, Gauguin. Il a eu, c'était rue de Lambe, rue de la Grande Chaumière et rue Vercingétorix. Donc c'est un des pères de la peinture moderne à Montparnasse, Gauguin. Donc, et tous les disciples de Gauguin, de l'école de Pont-Aven, qui formeront l'école de Pont-Aven, ont été aussi en cours à la Grande Chaumière, dans les académies libres. Je pense à Sérusier, Émile Bernard, tous ces artistes-là qui après iront en Bretagne. Donc la Bretagne, c'est un sujet très important pour Montparnasse, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours qui se sont faits, d'une part entre les artistes bretons qui allaient à Montparnasse, et d'autre part entre les artistes modernes qui allaient en Bretagne pour se reposer de cette folie de la vie parisienne.
Et est-ce que après, dans les... Alors bon, on va à grands traits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Que se passe-t-il là, les années 60? Est-ce que les années 50, il se passe des choses intéressantes à noter, des événements, ou est-ce que Montparnasse se vide un peu?
Il s'est toujours passé des choses. Mm-hmm. Mais bon, on sent que l'axe central de Paris, le phare qui éclaire le monde de l'art moderne, cet axe capitale mondiale de l'art, se déplace vers New York avec la Seconde Guerre mondiale. Et ça se déplace, ça commence même à se déplacer avec l'exposition de l'art Morichaud avec Duchamp et Picabia qui envoient toutes les œuvres de ce qui se fait, en Europe à New York pour une grande exposition dans une caserne à l'art Morichaud. Et la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, va mettre. Ça va être un tel souffle, une telle déflagration, ce qui va arriver à tous ces artistes. Beaucoup vont périr, tous les artistes juifs, il y en a beaucoup qui périront dans les camps, qui seront assassinés. D'autres se partiront aux États-Unis, s'exileront dans le sud de la France. Et on sent que l'axe se déplace central, se déplace vers les États-Unis. Et donc Montparnasse, même s'il se passe des choses dans les années 30, 40, 50, 60, même juste dans les années 70-80, il s'est toujours passé des choses à Montparnasse. Mais voilà, le pôle central s'est déplacé.
Et est-ce qu'on arrive dans les années 60-70 à ce que certains appellent les années fric ? Et les artistes s'éloignent.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Par exemple, il y a quelqu'un comme Bazaine qu'on aime bien nous parce qu'il se réfugie à Clamart, donc on aime bien cette ville. Et c'est vrai que bon, c'est pas très loin, remarquez. Hein, bon, on a l'impression que ça y est, les gens commencent à partir sur la grande banlieue.
Ça a dû se faire de façon progressive, de façon presque insinueuse. Petit à petit, les ateliers ont été remplacés par des lofts. Les marchands de couleurs sont partis. Les galeries sont parties. Ça a été remplacé par le monde d'aujourd'hui. Et c'est pas que à Montparnasse, ça a été partout pareil. Et les artistes aussi, par rapport à l'évolution immobilière, ne peuvent pas tenir un atelier aujourd'hui à Montparnasse ni dans Paris. Donc, ils s'expatrient en banlieue et en province. Donc, c'est plus un lieu de rassemblement des artistes, sauf peut-être dans ma galerie lors de certains vernissages. J'en profite un peu pour faire ma pub. Mais les artistes sont partis petit à petit et ça fait partie de la suite logique des choses. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lieu qui existe dans le monde où il y aurait une telle concentration d'artistes équivalent à Florence, Pont-Aven ou Montparnasse? Je sais pas, peut-être pas un lieu physique, peut-être un lieu. Aujourd'hui, les artistes se retrouvent beaucoup sur Facebook et sur Internet, donc c'est peut-être devenu le nouveau lieu de rencontre des artistes.
Oui. Alors, quel serait votre peintre préféré ?
Le Squezec. Le local de l'étape, bien sûr.
Ouais, j'ai été aussi très ému par une toile d'Héberle, l'Absinthe.
Ah, ouais.
Elle est très forte, cette
François Héberle. Ça témoigne aussi d'un Montparnasse à deux visages, c'est-à-dire le Montparnasse de la fête et le Montparnasse des grandes détresses et des grandes misères psychologiques.
Oui, tout à fait. Alors, vous avez des projets ?
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme projet ? D'abord, je crois que le 2 février, on peut vous retrouver à Drouot.
Voilà, alors j'ai une conférence en partenariat avec l'Hôtel Drouot et Albin Michel, une conférence à Drouot, justement, sur Montparnasse. C'est le 2 février à 18h30 en salle 9. Et voilà, une petite conférence d'une heure suivie d'une signature.
Drouot à Paris.
Absolument, à l'Hôtel Drouot, célèbre pour ses ventes aux enchères. Et donc voilà, ensuite les projets, j'ai pas mal d'expositions de prévues dans ma galerie. Je peux pas trop en témoigner maintenant parce que je suis en préparation de ces expositions et je suis superstitieux.
D'accord.
Et puis voilà.
En Bretagne peut-être, des expositions aussi en Bretagne ?
Oui, on va fêter les 30 ans de la galerie de Bretagne, la galerie de mon père. Donc 30 ans, ça se fête. On va organiser cet été pas mal d'événements sur Quimper. Donc parce qu'on a trois galeries là-bas, dans la même rue, la rue du Frout. Sur Quimper, au pied de la cathédrale et à côté du musée. Et donc voilà, on va plein d'événements en préparation.
Alors, puis peut-être un autre livre, comme celui-ci était sympathique, là. Alors, on fait Montmartre maintenant ?
Je vais d'abord digérer celui-ci, qui m'a demandé pas mal de
temps. Oui, parce que ça doit être un travail énorme.
Ouais. Je pensais démarrer sur un livre, faire un livre sur les grands oubliés du Montparnasse. Et puis en fait, j'ai retracé toute l'épopée du quartier avec les ramifications avec les grandes stars. Et je pensais mettre 6 mois pour l'écrire, j'ai mis 4 ans. Donc c'était un peu plus long que prévu. Et il y a eu 1 an et demi de correction. Donc Donc voilà, on va faire une petite pause avant un autre projet littéraire.
Bon, eh ben écoutez, en tout cas, merci.
Merci à vous.
Revenez nous voir et ce sera avec un grand plaisir
avec
pour
joie.
Nous parler d'autres, bah, de vos projets quand ils seront un petit peu plus sûrs. Et puis, un peu d'humour pour conclure provisoirement notre échange avec une chanson d'un voisin de Montparnasse. Vous en parlez d'ailleurs. Bon, il a habité impasse Florimont.
Ah, fort.
C'est l'ami Georges,
ah,
évidemment.
Sûr, bien
et
sûr.
C'est Croque-Mort qui cherche le cimetière du Montparnasse. En fait, le baiser de Brancusi, il est toujours en caisse ou on
il
peut
est,
le voir
il est là, il est là toujours. Hein, il
non,
est
mais
toujours.
On peut le voir parce que moi, la dernière fois que je suis passé, il était dans une caisse avec 5 ou 6 caméras qui l'observaient.
Ah oui, j'avoue que je suis pas passé depuis longtemps, mais bon, en tout cas, il est sauvé. Il est là.
Il y a une décision.
Ouais, il est
tout
là.
À fait. Bon, bah écoutez, écoutons Georges et ses croque-morts.
J'ai des tombeaux en abondance, des sépultures à discrétion. Dans tout cimetière, quelque importance, j'ai ma petite concession. De l'humble tertre au mausolée, avec toujours quelqu'un dedans. J'ai des petites bosses plein les allées, et je suis triste cependant, car je n'en ai pas, et ça m'agace, et ça défrise mon blason. Au cimetière du Montparnasse, à 4 pas de ma maison, à 4 pas de ma maison. J'en possède au Père Lachaise, à Bagneux, à Thiers, à Pantin, et jusque ne vous en déplaise, au fond du cimetière marin. À la ville comme à la campagne, partout où l'on peut faire un trou, j'ai même des tons beaux en Espagne, qu'on me jalouse peu ou prou. Mais je n'en ai pas la moindre trace, le plus humble petit soupçon. Au cimetière du Montparnasse, à 4 pas de ma maison, à 4 pas de ma maison. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement de nécropole en nécropole, de pierre tombale en monument. On m'entrevoit sous une couronne d'immortels à Champéret. Un peu plus tard, c'est à Charonne qu'on m'aperçoit sous un cyprès. Mais seul un fourbe aura l'audace de dire je l'ai vu à l'horizon du cimetière du Montparnasse, à 4 pas de sa maison, à 4 pas de sa maison. Devant le château de ma grand-tante, la marquise de Carabas, ma 5 famille, languide d'attente, mourra-t-elle, mourra-t-elle pas? L'un veut son or, l'autre ses meubles, qui ses bijoux, qui ses bibelots, qui ses forêts, qui ses immeubles, qui ses tapis, qui ses tableaux. Moi je n'implore qu'une grâce, c'est qu'elle passe la morte saison au cimetière du Montparnasse, à 4 pas de ma maison, à 4 pas de ma maison. Ainsi chantait la mort dans l'âme, un jeune homme de bonne tenue, en train de ranimer la flamme du soldat qui lui était connu. Or il advint que le ciel eut marre de l'entendre parler de ses caveaux, et Dieu fit signe à la camarde de l'expédier rue Froidevaux. Mais les croque-morts qui étaient de Chartres, funeste erreur de livraison, menèrent sa dépouille à Montmartre, de l'autre côté de sa maison, de l'autre côté de sa maison.
Depuis le début de l'émission, nous mentionnons rapidement les titres des ouvrages commentés, mais vous les retrouverez ainsi que leurs références, comme à l'ordinaire, sur le blog du groupe Commune de Paris, de la Fédération anarchiste. Et tous les livres que nous citons, vous pouvez les commander auprès de Publico, la librairie de la Fédération anarchiste, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et puis, vous pouvez retrouver certains de nos commentaires sur notre page Facebook, Au fil des pages, et dans la chronique que j'ai déjà évoquée, Des idées et des luttes, sur le site du Monde libertaire. Troisième temps de l'émission, Une exposition, un catalogue, avec Agnès. Agnès qui s'est promenée vers le musée Galliera pour une exposition consacrée à Frida Kahlo. Elle adore Frida Kahlo. Agnès.
Absolument, j'ai été assez surprise de cette exposition, donc qui se trouve au Palier Galliera, au musée de la mode, au 10 avenue Pierre de Servier à Paris, dans le 16e, et qui est toujours actuelle du 19 septembre 2022 au 5 mars 2023. En fait, dès l'entrée, on pénètre dans une étroite galerie sinueuse, tel un ruban, où sont affichés chronologiquement les événements de la vie de Frida Kahlo, depuis sa naissance, ses premières peines et handicaps dus à la poliomyélite, le sursaut, puis le terrible accident de tramway en passant par son mariage avec Diego Rivera, les divers courriers partagés avec ses amants et amis, des copies de tableaux, de décorations qu'elle chérissait et qui meublaient sa maison, comme par exemple de nombreux ex-votos. Les ex-votos du Mexique étaient des peintures votives, qui étaient une tradition du pays pour remercier d'un miracle ou d'une faveur dans ce pays. Ces illustrations étaient en général narratives et mettaient les personnes en situation comme dans une bande dessinée pour affirmer l'importance du périple avant la grâce. Et Frida Kahlo affectionnait ce type d'illustration typiquement mexicaine et espagnole, particulièrement après son grave accident de tramway. Le parcours s'ouvre sur trois immenses espaces où l'on découvre une précieuse collection de robes traditionnelles Tehuana, des toilettes portées par Frida Kahlo tout au long de sa vie, des blouses brodées parées de mille couleurs, des jupes longues éblouissantes, des châles tissés, mais aussi des colliers précolombiens, de divers exemples de corsets et de prothèses personnalisées et peintes à la main. Enfin, de petits objets intimes, l'ensemble présenté avec des vidéos et des autoportraits fascinants de l'artiste, remarquablement commenté dans le catalogue de l'exposition. Un magnifique parcours intimiste en hommage à Frida Kahlo pour comprendre comment elle s'est construite une identité à travers la manière de se présenter et de se représenter pour ses préoccupations identitaires et politiques, mais aussi pour relever son image d'identité d'handicapé, souvent obligé de se déplacer en fauteuil ou de garder le lit. On disait de Frida Kahlo, je cite, chez Frida Kahlo, cette corrélation entre style vestimentaire et identité est telle qu'elle aurait pu déclarer « mon vêtement, c'est moi ». Parlons alors de deux ouvrages consacrés à Frida Kahlo que je vous présenterai le plus synthétiquement possible pour mieux vous inviter à les découvrir et à les lire. Un ruban autour d'une bombe, une biographie textile de Frida Kahlo, écrite par Rachel Vinet-Krupa et Maud Gelly aux éditions Nada de 2022. Et puis Frida Kahlo d'Aiden Herrera aux éditions Flammarion aussi en 2022. Frida Kahlo est née le 6 juillet 1907 d'une famille métissée. Son père était d'origine allemande, brillant photographe et apprécié. Sa maman était mexicaine. À l'âge de 6 ans, elle eut la poliomyélite et fut handicapée d'une jambe qui peinait à se développer. Son père, devant sa tristesse, l'initia à la photographie, puis l'encouragea à faire des études supérieures. Elle sera une des rares femmes inscrites, du reste, dans une école préparant à la faculté de médecine à l'époque.
Et puis alors, il va y avoir un accident.
Et puis arrive l'accident tragique qui l'immobilisera plus d'une année, l'obligeant à être très souvent couché et à porter un corset. Frida rebondira de cette époque sombre grâce à sa mère qui lui fera fabriquer un chevalet spécial pour qu'elle puisse peindre depuis son lit. entourée du miroir grâce auquel elle réalisera de nombreux autoportraits, tous aussi remarquables les uns que les autres. Frida se remet, rencontre alors divers artistes, dont Diego Rivera, une personne au tempérament particulier, de 21 ans depuis qu'elle, connue particulièrement pour des fresques de grande ampleur. Frida et Diego se marieront et cessent leur activité militante au Parti communiste et partent 3 ans aux États-Unis. C'est à cette époque-là qu'elle arborera en toute occasion ses toilettes mexicaines pour faire valoir les valeurs de ses origines, choquée par la vie politique américaine. Puis à leur retour au Mexique, le couple se mobilisera pour venir en aide aux républicains espagnols en pleine guerre civile en 1936 et se rapprocheront de la tendance trotskiste. C'est ainsi qu'ils obtiendront l'asile politique de celui-ci dans leur pays. De l'idylle qui naîtra entre Trotsky, et Frida restera un autoportrait offert par Frida Kahlo à son amant. André Breton, subjugué, invitera Frida à venir exposer en France dans le mouvement surréaliste. Je cite André Breton, l'écrivain. Au mur du cabinet de Trotsky, j'ai longtemps admiré un portrait de Frida Kahlo par elle-même. En robe d'ailes dorées de papillon, c'est bien réellement sous cet aspect qu'elle en trouve le rideau mental. Il n'est pas de peinture plus exclusivement féminine, au sens où, pour être la plus tentante, elle consent volontiers à se faire tour à tour la plus pure et la plus pernicieuse. L'art de Frida Kahlo est un ruban autour d'une bombe. En France, elle sera tout autant appréciée pour sa peinture que pour ses robes traditionnelles. Mais Frida Kahlo gardera beaucoup de réserves pour la politique française envers les réfugiés espagnols et pour l'image de ce mouvement surréaliste qu'elle ne trouve guère intéressant. Jusqu'en fait, son retour au Mexique et à l'exposition universelle du surréalisme, où là elle rencontrera tous les grands et sera subjuguée par certains artistes. Puis sa santé bascule, les interventions chirurgicales se multiplient, les douleurs et les traitements aussi, et Diego Rivera organisera une exposition de son œuvre à laquelle elle assistera dans son lit à Baldaquin. Le 13 juillet 1954, Frida meurt dans sa maison. On ne saura jamais si c'est des suites d'une infection pulmonaire ou d'une surdose de médicaments. Le petit ouvrage « Un ruban autour d'une bombe » est accompagné d'illustrations, de portraits, de costumes de Frida, composés comme des tableaux surréalistes particulièrement subtils, qui laisse entrevoir ses états d'âme à chaque fois. Je vous rappelle donc Un ruban autour d'une bombe de Rachel Vinet-Krupa et Maud Guély aux éditions Nada de 2022 et Frida Kahlo, Dayden Herrera aux éditions Flammarion aussi de 2022 et bien évidemment, puisque c'est le titre de cette rubrique, le catalogue de l'exposition Frida Kahlo, au-delà des apparences aux éditions Paris Musée 2022.
Merci. Le Diego Rivera, est-ce qu'il a été à Montparnasse, Mathieu ?
Ah oui, c'était une des figures de Montparnasse, Diego Rivera. C'était une figure de la Rotonde. Je crois qu'il avait son atelier rue du Départ. Et sa première femme, c'était pas Frida Kahlo, elle s'appelait Marevna. C'était une peintre russe de Montparnasse et il aura une fille avec Marevna qui s'appellera Marika. Et donc c'est vraiment une des figures de Montparnasse. On le voit représenté il a fait pas mal d'œuvres à Montparnasse. Il a notamment peint la gare, il a peint un peu Montparnasse, hein, Diego Rivera.
Et où peut-on trouver, voir ses œuvres? Pas tellement en France, si.
Pas vraiment, non. Je crois qu'elles sont plutôt en collection, collection particulière. On en a reproduite une. Il y a les œuvres cubistes aussi, parce qu'il y a une période cubiste. Je pense qu'elles sont peut-être à Beaubourg, dans les. Peut-être à Beaubourg, je pense qu'il y a, y a des œuvres cubistes, mais celle de la gare de Montparnasse.
Je crois qu'il avait un surnom. C'est pas le Mexicain de Montparnasse, non, c'était.
Bon, je sais pas, ils avaient tous des surnoms.
Ils avaient tous des surnoms. Ouais. Ouais.
C'est tout à fait possible.
D'accord, très bien.
Bien, bah écoutez, alors Agnès, la prochaine fois, je crois que tu vas nous présenter un livre sur un typographe, c'est ça ?
Sur un typographe et un graphiste qui s'appelle Jacquenot.
Jacquenot. Donc ça, c'est pour fin février.
Mois de février, hein, oui.
Fin février. Puisqu'on se promène et en attendant notre ami Dominique, Frédéric, qui va nous parler de la rue du Chat qui pêche. Bon, on va écouter Francesca Solville, ma chanson de la rue.
La chanson m'est venue. Façon d'aimer comme une herbe ténue sur une pierre nue. La chanson m'est venue, une façon de rire au sortir d'une ornière, de larmes aux paupières. La chanson m'est venue, une façon de vivre en sel, orgueil et rose. Sur une plaie de pauvre, j'étais découronnée, patiente et désarmée, reine ou barque sans port qu'on a désamarrée. Je ne saurais jamais qui, en chantant dehors, m'a fait chanter encore et recouronner d'or. Et la rue m'est venue du cœur et de la lèvre, la beauté d'une rue est affaire d'orfèvre. Et la rue m'est venue, ouvrière surgie du peuple, qui m'a reçue dans l'herbe de son lit. Et la rue m'est venue, en vague de tendresse, d'un geste retenu au bord de la caresse. J'étais découronnée, patiente et désarmée, reine ou barque sans port qu'on a désamarrée. Je ne saurais jamais qui, en chantant dehors, m'a fait chanter encore et recouronner d'or. Me voici revenue. Me voilà rendu où je devais aller, ma chanson de la rue dans ma gorge serrée.
Eh bien, en attendant, Dominique, qui va nous rejoindre incessamment sous peu, je voulais feuilleter avec vous le Monde libertaire de janvier. Alors, il est consacré à un thème intéressant, le pas de côté. Alors, vous avez, comme d'habitude, des articles sur les luttes, notamment dans les établissements qui logent des retraités, sur la question des bassines, notamment dans les Deux-Sèvres. Trois pages consacrées à Serge Livrauzet, qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui a publié de très nombreux livres sur la question des prisons. Et bien évidemment, le dossier qui est consacré au pas de côté. Alors, le pas de côté, vous retrouverez des personnes comme. Un extrait du un bouquin d'Émile Pouget. Vous vous rappelez lors de la dernière émission, nous avions parlé du bouquin de Pouget sur le sabotage. Eh bien là, Pouget, c'est un extrait de l'almanach du Père Pénard, dans un style assez fleuri tel que Pouget savait le faire. Ensuite, des expériences de communauté, comme par exemple Christiana, un pas de côté, ou la question du nucléaire, et que peut-on faire avec le nucléaire, est-ce qu'on peut considérer que la fête est finie ou pas, et la question des voitures. Un dossier aussi, deux pages consacrées à la libération des femmes lors des livres sur le MLF de mai 68 au mouvement de libération des femmes. Et c'est un, notamment, Parisienne citoyenne, c'est un catalogue d'une très belle exposition sur l'action des Parisiennes citoyennes de 1789 à 2000. On aura l'occasion de revenir dessus. Et puis, évidemment, on y parle du livre Séverine, l'insurgé, et ce texte a été commis par notre amie Hélène. Donc, vraiment à lire, à découvrir avec des commentaires de livres, Le Monde libertaire de janvier 2023. Alors, j'ai oublié quelque chose. Voilà, j'ai tout simplement oublié. Allô? Oui, allô. Dominique?
Oui, bonjour Francis.
Oui, bonjour. Voilà, j'étais un peu paumé avec mes casques et mes... Alors, donc aujourd'hui, tu vas nous parler dans la série Un roman de la vie, tu vas nous parler d'un livre, La rue du chat qui pêche. Alors dis-nous d'abord, je crois qu'elle est sur les bords de Seine, du côté de Saint-Michel. Et alors, dis-nous tout.
Oui, alors d'abord, quelques mots sur Yolande Foldes. C'est une Hongroise qui est venue s'établir...
Donc c'est l'auteur, j'en déduis.
Oui, qui est venue s'établir à Vienne et à Paris. Donc elle raconte la vie d'une famille d'émigrants hongrois de la classe ouvrière après la Première Guerre mondiale. Donc c'est certainement sa famille, hein, parce qu'elle est arrivée en même temps à Paris et a rencontré les mêmes difficultés. Alors le livre a remporté un grand succès en Hongrie. Bon, moi, chez nous, il est moins connu. Il a reçu un prix aussi en Angleterre, hein, en 1937. Donc, je vais vous raconter un peu le contenu de ce livre. Alors, d'abord, le titre qui est quand même amusant, hein. Donc, Rue du chat qui pêche. Alors, je vous lis le début du livre, puisqu'elle va donner des indications sur cette rue que tu dois connaître.
Oh oui, bien sûr. Oui, oui, c'est oui. Une des plus petites rues de Paris. Oui. Pas forcément la plus courte, mais une des plus étroites, oui.
Oui. Alors, elle écrit « Une rue pour rire ». C'est vrai que c'est amusant comme nom. On la traverse en deux pas. En moins de 30, on la parcourt. Mais on trouve à Paris de ces étonnantes ruelles pas plus longues que la queue d'un lapin. Et cela non seulement dans les faubourgs, mais même en plein centre, tout près des voies animées. La rue du chat qui pêche aboutit à la Seine, reliant le quai Saint-Michel à la petite mais très vivante rue de la Huchette. Comme ça, donc, on situe très bien.
Oui.
Alors c'est une belle histoire d'exil, hein, avec ses difficultés, ses joies, ses peines. Bon, il y a pas du tout, le ton est très enjoué, il n'y a pas de pathos. Dès les premières pages, donc, on fait connaissance avec une famille, la famille Barabas, qui ont quitté Budapest dans les années 30, après la chute de l'Empire austro-hongrois. Alors, ils quittent un pays ruiné, où les ouvriers ne trouvent plus de boulot. Donc c'est le cas de Monsieur Barabas et de sa femme. Et donc, ils viennent s'installer avec leurs trois enfants. Alors, on découvre avec eux la ville de Paris avec ses petits hôtels meublés. Donc, le leur sera rue de la Huchette. Et donc, eux, ils verront de leur chambre, ils verront cette ruelle. Hein. Et on découvre le Paris des immigrés arrivés des quatre coins de l'Europe. Donc, beaucoup de Russes. Donc, parmi eux, Bardichinov, un ex-banquier pétersbourgeois. Liv, un lituanien socialiste, Alvarez, un anarchiste anti-alcoolique et végétarien.
Oui.
Alors, ils sont tous pittoresques. Hein. Mmh. On a un monarchiste qui veut un roi, mais pas sans gouvernement. On a un grec, Fédor Papadakis, qui est rescapé d'Asie mineure et des massacres. On a un italien aussi, un ministre exilé par le fascisme. Alors, ils ont tous des opinions politiques différentes et très tranchées, mais ce qui les relie tous, c'est le fait qu'ils soient exilés. Donc ils vont se retrouver pour manger ensemble, pour jouer aux cartes. Hein. Alors ils discutent politique, hein, ça discute ferme. Alors ils critiquent tous le capitalisme. Il y en a un qui va dire le capitalisme n'a pas d'idéal, le capitalisme est considéré comme une fin en soi et n'ayant vu que sa propre expansion. Ils discutent aussi sur le fait qu'ils se retrouvent un peu séparés des Français. Mais tout en étant étrangers avec leur pays d'origine. Donc, parfois, ils ne savent plus se situer. Alors, je vous lis un passage. Anna découvre soudain avec émotion qu'Albertine est la première créature de France qui ait jamais franchi leur seuil. C'est-à-dire que beaucoup de Français ne venaient jamais chez eux. Il y a plus de 10 ans qu'ils habitent ici et Albertine est la première. Jamais une voisine n'est seulement venue leur emprunter 2 œufs. Quel étrange univers fermé, reclus que le leur, que celui des étrangers à Paris et peut-être dans toutes les villes du monde. Donc voilà, c'est le sort des étrangers qu'on doit connaître aussi encore aujourd'hui. Foldès se moque aussi des Français. Alors le Gaston, le propriétaire de l'hôtel, a un cerveau politique, dit-elle, mais il préconise la dictature pour la racaille, c'est-à-dire les peuples non français. Et il se réjouit des événements politiques malheureux qui se passent à l'extérieur parce que pour lui, ça remplit les petits hôtels d'exilés. Donc c'est un commerce.
C'est assez moderne, finalement.
Oui, oui. Ouais. Alors il y a toute une discussion. D'ailleurs, la famille préfère pour l'instant demeurer à l'hôtel parce que le père espère toujours rentrer en Hongrie comme beaucoup d'émigrés. Ils pensent tous qu'ils vont rentrer.
Hein. Et oui, on ne ferme jamais la valise parce qu'on va partir.
Mmh. Oui, donc c'est pour ça qu'ils ne prennent pas d'appartement. Hein. Mmh. Et il y en a un qui dit, d'ailleurs, Lénine a vécu dans ces petits hôtels de Paris assez longtemps, et maintenant, il nous envoie des aristocrates russes. Alors, c'est plein d'humour, hein, il y a des petites phrases comme ça. Alors, Foldès salue le modèle scolaire français républicain. Hein. Les parents disent, même si on rentre, mais laissons l'État étranger élever nos enfants. Et bon, les enfants s'en sortiront bien, puisqu'ils seront ingénieurs et médecins. Hein. Alors, la famille va être touchée quand même par la géopolitique et la mauvaise image du peuple hongrois, qui a été, rappelons-le, ennemi de la France durant la guerre 14. Hein. Alors, en plus, il y a eu des scandales. Il y a eu un scandale de fausse monnaie fabriquée par les Hongrois. Et donc, l'une des filles qui travaillait dans le textile va être licenciée. Hein. Je vous lis le passage. Sa patronne la convoque. Elle dit « Je suis désolée, mais vous devez comprendre. Avec tout ce que vos compatriotes ont fait contre la France, je ne puis continuer à employer une Hongroise. » Donc, elle est licenciée pour cette raison. Hein. Alors, la famille est furieuse parce que elle dit que bien sûr, il y a des Hongrois qui ne sont pas honnêtes. Alors, je vous lis le passage. À cette époque, on peut diviser les Hongrois de Paris en 3 groupes. D'abord, ceux qui n'ont rien à faire avec le communisme et la politique. Ils sont venus de leur plein gré parce que le travail était rare et qu'ils n'arrivaient pas à gagner leur vie chez eux. Le second groupe d'émigrants peut être lui-même subdivisé en 2 branches. D'une part, les socialistes, d'autre part, les communistes, que l'exil n'a en rien rapproché. Le troisième groupe se compose de la lie, individus équivoques, aventuriers, charlatans et des tapeurs. Le tapeur suce les 2 autres groupes et les institutions charitables. Il n'y a aucun lien entre ces divers groupes. Bon, et enfin, dernière affaire, en 1934, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie et le ministre français des Affaires étrangères, Louis Barthou, sont assassinés à Marseille. Mmh. C'est pas des Hongrois, c'est des Bulgares, mais dans l'esprit des Français, c'est la même chose. Et donc, ils vont encore être très très mal vus, à tel point qu'ils vont devoir s'exiler en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est vraiment une belle histoire, hein, qui raconte les déboires, mais aussi les joies d'une famille.
Alors, en fait, c'est un moment de sociologie.
Oui, c'est très sociologique. Mmh. Comme. Bon, et on peut le rapprocher, plus tard je vous parlerai peut-être d'autres auteurs hongrois et russes, parce que le livre de Foldes a bénéficié d'une critique positive d'un autre hongrois connaisseur de la France, András Évesi, qui a d'ailleurs été volontaire, qui s'est engagé pendant la guerre 40, hein, il en est mort, hein, et il a écrit un livre qui s'appelle Pluie de Paris, qui est aussi le roman qui décrit son arrivée à Paris. Hein. Et ce roman est lui-même, Pluie de Paris, est même préfacé par un autre hongrois, François Fedjo, lui-même auteur d'un ouvrage dans les années 30 qui s'appelle Voyage sentimental et où il raconte aussi son arrivée à Paris. Fedjo avait fui le régime autoritaire d'Orty et c'est devenu un spécialiste des démocraties qu'on appelait alors populaires. C'est un grand ami de Camus, de Mounier et de Nizan. Et en 1950, il a tenté d'arracher les intellectuels français au sommeil dogmatique concernant leur vision faussée de ces pays. Voilà. Donc c'est tous des gens très impliqués politiquement, hein, mais qui ont raconté quand même leurs difficultés lorsqu'ils sont arrivés à Paris.
D'accord.
Voilà.
Très bien, bah écoute, c'est tout à fait passionnant. Donc on conseille ce livre. Et puis alors la prochaine fois, qu'est-ce que tu nous présentes?
Je voulais présenter un Ukrainien, puisque malheureusement l'Ukraine est toujours d'actualité. C'est Les abeilles grises de Kourkov, un livre récent, hein, oui. Donc qui prolongera. J'avais déjà parlé de l'Ukraine au moment où j'ai présenté La Garde blanche de Bulgakov. Hein. Mais donc là, je représenterai l'Ukraine sous un œil plus récent.
Très bien, très bien, voilà. Très bien. Eh bien écoute, merci. On se retrouve dans 15 jours.
Oui.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Alors, simplement, très rapidement, je vous signale un livre dans la lignée sur la rue qui s'appelle « Histoire de la rue de l'Antiquité à nos jours ». Donc, c'est un collectif sous la direction de Daniel Tartakovsky. Il est sorti aux éditions Talendier. Je n'ai pas le temps de vous le présenter dans le cadre de l'émission, mais vous pouvez retrouver la chronique dans Des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Encore merci pour votre attention et votre fidélité. Dans 15 jours, le mercredi 8 février 2023, nous recevrons Anne Yanover, la directrice du musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis, et Laure Godineau, enseignante à Paris 13, qui nous présenteront une très belle exposition « Insurgés au masculin, au féminin, regard sur celles et ceux de la Commune de Paris de 1871 ». L'exposition s'y tient jusqu'au 6 mars. D'ici là, bonne lecture et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager.
La cigarette sans cravate. Sur l'aube des contrats et le remords des coups de jatte. Avec la peur qui prend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être
ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître.
Ma démarche est un peu délicate, mais elle est nécessaire. Voilà. Votre amie, Mademoiselle Gaby, aime un peu trop le pittoresque. On la voit trop à la Casbah.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
La Casbah est un endroit où il ne faut s'aventurer qu'avec prudence. Une femme seule excite bien des convoitises. C'est pourquoi